l'heure est grave quand même, puisque successivement cette semaine, enfin la semaine passée, de grands personnages ont successivement disparu. J'ai nommé le grand pontife Jean-Paul II et le sérénissime Régnier III de Monaco. Donc on pouvait pas rester insensible pendant notre émission. Et donc Pierre et Cédric ont successivement tenu à marquer un hommage à ces deux grandes seigneuries. Donc je ne sais pas lequel des deux tient à débuter l'hommage. C'est Cédric, je te laisse la parole.
Oui, eh bien chers frères, aujourd'hui on doit vous faire part d'une repentance aux oreilles loin du front, puisqu'on vous a caché que nous étions au courant que Jean-Paul II vivait encore il y a quelques semaines de cela. C'est vrai, c'est difficile à croire, mais nous avions des preuves. On avait mis la main sur un rapport secret de la mission scientifique qui avait envoyé une sonde urinaire dans Carole en février et qui avait repéré des signes de vie, certes, d'organismes peu développés. Mais les scientifiques étaient formels, pas de formol à l'horizon. Et malgré les efforts de notre très sainte Église qui a voulu faire preuve d'humilité et de pudeur en organisant des funérailles en petit comité, à l'abri des médias, nous avions découvert le poteau rose. Carole est morte en avril 2005. Car enfin, limier du journalisme, nous avions repéré un signe qui ne trompe pas. Un léger trouble dans le regard de sa fille adoptive, que nous appellerons Béatrice Chazal pour préserver l'anonymat de Bernadette Paoli. La messe était dite, et les esprits chagrins pourront toujours reprocher à cet évangéliste des temps modernes les sempiternelles mises au placard des droits des femmes, des homosexuels, de la contraception, ou encore des plaisirs de la chose, la masturbation, la sodomie, le cunnilingus, les trois en même temps, j'en passe et des meilleurs, au propre comme au figuré. On pourra aussi lui reprocher la mise au pas des curés qui ressemblaient à des marxistes en Amérique latine, à surtout pas confondre avec des marxistes de Hello qui ressemblent à des curés aujourd'hui. Bref, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On connaît les rengaines de ceux qui voient du mal partout. Mais regardons les faits en face, chers camarades. On lui reproche ses voyages, mais moi je garde l'image d'un homme discret, ratatiné et avare de ses gestes. On caractérise le Vatican d'État autocrate. Certes, il n'y a pas eu d'élection depuis 26 ans, mais ne s'agit-il pas du seul pays au monde où seuls les étrangers ont le droit de vote? Et les critiques sur ses visions de la sexualité font fausse route. Un article du Figaro du 6 avril remet les choses en place. Je cite « Il y a là une profonde méconnaissance de la pensée de l'œuvre du pape » et le journaliste de conclure que l'union des époux doit être vue non plus comme une concession à la faiblesse de la chair, mais comme une sorte de propédeutique de communion à Dieu. Alors. Et le site internet officiel de l'Église catholique en France ajoute que le pape n'a jamais évoqué directement le sujet du préservatif. Il a simplement rappelé à Kampala, en Ouganda, la place de la chasteté parmi les moyens de lutter contre la maladie. Alors, j'ajouterai qu'il n'a jamais non plus condamné les caresses du mamelon ou le léchage de l'anus. Ne s'agit-il pas d'un signe... C'est trop dur. Ne s'agit-il pas d'un signe supplémentaire de sa largesse d'ouverture d'esprit ? Quant à ses relations...
Je vais le faire.
Quant à ses relations privilégiées avec l'Opus Dei, on peut voir les choses de manière positive. Il s'agit certes d'un groupe... Il s'agissait d'un groupe élitiste et ultra-réactionnaire, mais en lisant ces textes, on peut y découvrir des rapprochements possibles. Ainsi, dans Le Chemin, le père fondateur de l'Odé, José María Escrivá de Balaguer, écrit « Je vais te dire quels sont les trésors de l'homme sur la terre. La faim, la soif, la chaleur, le froid, la douleur, le déshonneur, la pauvreté, la solitude, la trahison, la calomnie, la prison. » Ou encore, je cite toujours, le très beau « Béni soit la douleur, aimé soit la douleur, sanctifié soit la douleur ». Il me semble qu'on ne peut pas rester insensible à cet appel. Il faut faire un geste et tendre la main quand c'est si gentiment demandé. Voilà donc les choses remises à leur place. En conséquence, je propose de soutenir deux actions concrètes. Pour la première, une gare a déjà été baptisée Jean-Paul II en Italie et le très progressiste Claude Goasguen propose de donner son nom à une place de Paris. Ses petits bras. Pour un homme de la stature de Jean-Paul II, je propose qu'on lui donne le nom d'une ville de France et que Troyes s'appelle deux. Enfin, comment ne pas soutenir la proposition de canonisation du pape? Je peux attester personnellement d'au moins deux miracles. Premièrement, il fut celui qui changea les fascistes en saints, comme l'archevêque de Milan, Alfredo Schuster. Et je dois aussi rendre compte la semaine prochaine à la Curie d'un second miracle, la conversion du camarade Pierre ici présent, qui prit par la peine à assister à la célébration d'hommage de Jean-Paul II vendredi dernier à Notre-Dame. Il en parlera par la suite. Enfin, je conclurai cette chronique en disant que si Sainte Carole est morte, moi, si j'ai une fille, je l'appelle Jean-Paul.
Personne ne m'aime dans les yeux muets, les glaciaux se mêlent d'ici bas. Les cons, les larmes, les salauds, sinistre bilan, chant pour la plus qu'un sang. À faire le clown déguisé en blanc. Je me sens bien seul sur la terre soudainement. Calice, à moi les câlins, les délices, mais comment faire?